Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est très heureux, en tout cas avec mon épouse, de pouvoir aussi retrouver l'Assemblée. Et on est content, en tout cas, d'être parmi vous. C'est vraiment une joie pour mon épouse et moi de pouvoir vous retrouver pour vivre simplement ce temps d'adoration et de louange ensemble. Et c'est vrai que Mélodie, hein, vous le savez, elle réclame souvent, mais c'est quand qu'on revient à l'église de Saint-Maur? Donc aujourd'hui, c'est fait. Donc elle est contente, mais par contre, elle était un peu timide donc, pour partir avec les frères et sœurs, donc à l'école du dimanche. Et sinon, on espère que le premier mois de l'année, de la nouvelle année, s'est bien passé pour vous. Que vous avez pris donc peut-être de nouvelles résolutions, en tout cas que vous essayez de tenir bon en comptant sur le Seigneur par rapport à ces nouvelles résolutions. Et en ce qui concerne notre début de ministère, donc à l'église de Pantin, donc cela se passe bien. On pourra en discuter si vous le souhaitez, donc juste après le culte, pour ceux qui le souhaitent. Et sinon, vous êtes tous là, bienvenue. Hein. Le culte commence à 10h30 chez nous. Vous voyez, comme moi aujourd'hui, vous pouvez assister à deux cultes. Donc, en tout cas, vous êtes les bienvenus et en tout cas, on serait très heureux de vous accueillir. Et merci sinon à Pasteur Philippe hein, pour cette invitation, afin que je puisse aussi nous conduire dans l'étude de la parole de Dieu. Et depuis le début de l'année, donc, vous avez commencé cette série de prédications donc, sur l'évangile de Marc. Et donc aujourd'hui, donc, on continue là où vous vous êtes arrêté. Et je me réjouis de voir avec vous ce passage donc, que nous a lu le pasteur Philippe, parce que personnellement, c'est un texte sur lequel j'aime méditer, parce qu'il me dirige toujours vers ce qui est essentiel, fondamental, central dans ma vie. Et pour ceux qui ont peut-être déjà adhéré à la foi chrétienne depuis un moment, le passage que nous allons étudier est un texte que généralement nous connaissons bien. Et pourtant, il est tellement bon de pouvoir à nouveau réfléchir dessus. Église de Saint-Maur, dans un premier temps, nous allons nous arrêter sur cette question de l'identité de Jésus. Et une fois que ce sera plus clair, bon, du moins je l'espère, eh bien dans un second temps, nous verrons ce qu'implique la vie de disciple. Et tout simplement, si vous avez votre Bible, je vous invite à suivre la lecture avec moi, donc dans l'évangile de Marc au chapitre 8, et nous lirons les versets 27 à 33. Donc vous pourrez également suivre sur la slide. Et donc je lis dans la version dite du Semeur. Jésus s'en alla accompagné de ses disciples et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples : Que disent les gens à mon sujet ? Qui suis-je d'après eux ? Et lui répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, et pour d'autres encore, l'un des prophètes. Alors il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis ? Pierre leur répondit, tu es le Messie. Il leur ordonna de ne le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire toute notre gratitude, Seigneur, parce que nous savons que c'est en toi que nous avons le souffle de vie. C'est toi qui nous permets justement de pouvoir encore aujourd'hui contempler ta création, Seigneur. Quel privilège pour nous de pouvoir venir ici dans ce lieu et pouvoir te louer librement, parce que certains, dans certains pays, Seigneur, ils n'ont pas ce privilège de pouvoir se réunir librement, ensemble, en église, pour te louer, pour t'adorer. Et Seigneur, nous voulons vraiment être reconnaissant pour ce privilège que tu nous fais, de pouvoir t'appartenir, de faire partie de ta famille qui est la famille royale, Seigneur. Que ton esprit puisse nous aider, renouveler notre intelligence afin que nous puissions tout simplement mieux comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Et Père, tout ceci, nous te le prions dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Et avant d'aller plus loin dans notre texte, donc je rappelle brièvement le contexte. Donc, il nous aidera tout simplement à mieux cerner la situation. Même si c'est vrai que ça fait déjà un moment, peut-être que vous êtes sur l'évangile de Marc, peut-être que certains aujourd'hui, je vois des nouveaux visages, donc ça nous permettra aussi de mieux cerner la situation. Et donc la semaine dernière, avec Pasteur Philippe, vous avez vu dans le passage qui précède notre texte que Jésus guérit un aveugle en deux temps. Et le fait que Jésus procède ainsi ne veut pas dire qu'il a raté sa guérison et donc il recommence, mais l'évangéliste Marc veut attirer l'attention de ses auditeurs, lecteurs. Et il établit un parallèle entre l'aveugle qui recouvre la vue progressivement et les disciples qui progressent dans leur compréhension de qui est Jésus. Oui, tout comme Jésus a rendu l'aveugle progressivement, Jésus va rendre la vue progressivement aux disciples. Et c'est une vue spirituelle, c'est-à-dire qu'il réalise distinctement qui il est. C'est pourquoi Jésus va prendre un temps pour discuter avec eux, les questionner à son sujet. Et vous savez, notre texte ouvre la section centrale de l'évangile. C'est le cœur du message de Marc, comme vous pouvez le voir, qui est le basculement justement d'un Messie puissant au Messie souffrant. Oui, des chapitres 1 à 8, on découvre Jésus, le Messie puissant. On le voit notamment, vous l'avez vu, avec tous ces nombreux miracles qui y sont racontés. Et ensuite, dans la deuxième moitié, on va dire des chapitres 11 à 16, on voit plutôt Jésus comme le Messie souffrant. Et particulièrement dans l'épisode où Jésus va prier le Père s'il peut l'éloigner de ce qu'il va subir, donc c'est-à-dire la souffrance et la mort. Et donc, au milieu du livre, comme je l'ai dit, se trouve la section centrale, le cœur du message de l'évangéliste, le basculement d'un Messie puissant au Messie souffrant. Et dans cette partie centrale, Jésus dévoilera de façon claire à ses disciples le but de sa venue, son identité et comment devenir disciple. Et après avoir rappelé donc un peu le contexte, voyons maintenant la question de l'identité de Jésus. Et en quoi cela peut nous rassurer, nous affirmer, nous faire grandir dans notre foi, Église de Saint-Maur. Et donc Jésus, avec ses disciples, sont en train de cheminer pour se rendre dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Ils sont toujours dans la région du nord d'Israël. Samuel peut peut-être nous faire un guide. Il a été récemment, il me le semble, en Israël. Et donc Jésus profite de ce moment où justement ils sont en marche pour les questionner et leur demander ce que les gens disent de lui. Qui il est d'après eux? Et dans la réponse des disciples, il y a deux noms qui sont mentionnés et le troisième correspond plus à une fonction. Le premier, Jean-Baptiste. On voit effectivement au chapitre 6 le roi Hérode qui entend parler de Jésus, car Jésus devenait célèbre à cause de tout ce qu'il accomplissait. Il disait que Jean-Baptiste est ressuscité. C'est pour ça qu'il a le pouvoir de faire des miracles. Et il pensait vraiment que Jésus était Jean-Baptiste qu'il avait fait décapiter. Ensuite, Jésus serait le prophète Élie, d'après certains. Élie, c'est ce prophète dans l'Ancien Testament qu'il fut enlevé au ciel à la fin de son ministère. Et ça, vous pouvez le lire dans 2 Rois, au chapitre 2. Et le prophète Élie, c'est une histoire que Mélodie, elle aime bien. Pourquoi elle aime bien? Dans l'application Bible App. Juste parce qu'on voit le feu, là, quand Élie arrive. Et on voit Élie qui se moque des prophètes de Baal. Et c'est une histoire qu'elle a préférée. Et donc, il y avait des Juifs qui attendaient le retour donc, de ce prophète Élie juste avant le Messie, parce que la prophétie de Malachie 3, il y avait cette prophétie du prophète au Malachie 3. Et donc, en voyant les similitudes donc des miracles de Jésus, ils pensaient justement que c'était ce prophète, que c'était lui. Et finalement, pour d'autres encore, Jésus est l'un des prophètes. Ils pensaient cela car Jésus, dans son ministère, il appelle à la repentance, annonce un jugement, accomplit des miracles, sa manière d'enseigner. Et donc, tout cela correspond bien au profil du prophète de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, pour nous qui avons toute la révélation, c'est-à-dire de Genèse à Apocalypse, ça paraît évident que Jésus ne correspond pas à ce que les gens de son époque pensaient, qu'il n'est pas Jean-Baptiste, Élie ou tout simplement un prophète. Mais parfois, il est bon de se mettre juste à la place des personnes de l'époque. Si nous avions vécu du temps de Jésus, que nous l'ayons vu accomplir tous ces miracles, est-ce que nous aurions su tout de suite qui il est? Soyons honnêtes. Et ne jetons pas trop vite la pierre sur ces gens. Au contraire, faisons preuve d'humilité et reconnaissons que nous aussi, on aurait pu voir Jésus autrement. Et d'ailleurs, même les disciples que Jésus lui-même a choisis à ce moment-là n'étaient pas au clair sur son identité. Lorsque Jésus leur pose la question de savoir qui il est pour eux, Pierre donne effectivement la bonne réponse. Et on suppose que les autres pensent à la même chose, les autres disciples. Et donc, on sait que Pierre répond correctement par rapport à la réaction de Jésus qui est surprenante. On a Pierre qui vient de répondre à Jésus, « Tu es le Messie ?» Et Jésus qui répond, et juste qui ordonne de ne le dire à personne. Si Jésus n'avait pas accepté ce titre de Messie, il l'aurait fait savoir. Mais il se contente d'ordonner à ses disciples de ne le dire à personne. Et donc, on comprend qu'il approuve. Et cependant, la réponse surprenante de Jésus nous amène à réfléchir. Pourquoi Jésus ne veut pas que les disciples disent qui il est, alors qu'ils ont reconnu son identité? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans les versets suivants, 31 à 33. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » La raison pour laquelle Jésus ne voulait pas qu'on dise qui il est était parce que les disciples ainsi que les gens n'avaient pas totalement bien saisi le rôle du Messie. Et je rappelle que le mot « Messie » provient du mot hébreu qui signifie « oint » en référence à celui qui a reçu une onction d'huile pour signaler son rôle particulier. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé un « oint » par excellence, le roi, un descendant de David qui régnerait, qui délivrerait son peuple. Et c'est bien ce que Jésus vient faire. Sauf que les disciples et les gens de l'époque attendaient un Messie conquérant qui allait les délivrer de l'oppression romaine, des puissances militaires qui les dominaient. Mais Jésus ne voulait pas créer une manifestation, un mouvement contre les Romains. C'est pour ça qu'il ne voulait pas tout simplement qu'on dévoile son identité. Et rappelez-vous ce parallèle des disciples avec l'aveugle qu'ils n'arrivent pas à voir distinctement. Jésus va expliquer aux disciples en quoi consiste véritablement son rôle, son identité. Jésus est bel et bien le Messie tant attendu que le Père a envoyé. Son combat n'est pas contre des forces humaines, mais contre Satan et ses anges. Et cette lutte, elle passe par la souffrance, le rejet et la mort. C'est le chemin de la croix. Et face à la réaction de Pierre, quand Jésus leur dit cela, on voit bien qu'ils n'ont pas compris. Oui, Pierre carrément fait des reproches à Jésus. C'est comme s'il corrigeait l'enseignement de Jésus. Sa réaction, elle nous questionne. Lui qui a vu Jésus guérir des malades, calmer la tempête, ressusciter un mort, se permet de reprendre son maître. Et par ses reproches, certains commentateurs disent que l'apôtre devient l'objet de Satan en suggérant une autre voie que celle de Dieu. Et on comprend mieux la réponse brutale que Jésus donne à Pierre. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Je ne sais pas vous, mais la réaction de Pierre, en même temps, j'ai envie de dire, une réaction normale. Jésus a choisi ses disciples, il a passé du temps avec eux, ils ont vu tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'il a accompli, mais aussi ils ont remarqué combien il était bienveillant envers eux. Ils se sont attachés à lui. Et c'est normal de ne pas vouloir la souffrance, la mort de quelqu'un qu'on aime. Au contraire, on veut son bien-être et on veut continuer à passer du temps avec lui. Mais comme je l'ai dit un peu avant, Pierre et les autres disciples ont une conception erronée de Jésus le Messie. Je répète, Jésus n'est pas venu pour les délivrer de la politique romaine, mais bien de Satan, du péché. Et c'est de ça fondamentalement que l'être humain a besoin d'être délivré. Si Jésus ne meurt pas à la croix, qu'il ne prend pas sur lui les péchés de l'être humain, qu'il ne ressuscite pas, il n'y a pas de pardon de Dieu. Car l'homme et la femme, dans leur nature, sont des êtres pécheurs. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'être humain ainsi que la création sont corrompus. Et la seule issue pour pouvoir sortir de cette corruption s'opère par la mort et la résurrection de Jésus. Grâce à cela, l'être humain, par l'intermédiaire de Jésus, de ce qu'il a accompli, peut maintenant se tenir devant Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de monde croit en Jésus, déjà par le fait qu'il a réellement existé, qu'il est effectivement un grand enseignant avec une bonne morale, de belles vertus. Monsieur Luc Ferry, par exemple. Est-ce que quelqu'un connaît Monsieur Luc Ferry ? Bon, si vous avez déjà fait de la philosophie, donc vous le connaissez sûrement. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est agrégé de philosophie et de sciences politiques. Donc c'est-à-dire qu'il est jugé digne de pouvoir tout simplement enseigner ces matières. Et donc, lors d'un débat face à Monsieur Blocher, Henri Blocher, que nous connaissons bien, lorsque Monsieur Ferry a pris la parole, il a d'emblée annoncé qu'il n'était pas croyant. Mais il a également avoué tout de suite après que l'œuvre qu'il emporterait à coup sûr sur l'île déserte, c'est l'évangile de Jean. Vous ne trouvez pas ça étonnant ? S'il n'y avait qu'un seul livre à garder, ce serait l'évangile de Jean. Monsieur Ferry, grand homme politique, grand philosophe, et pourtant, je ne sais dans sa carrière combien il a dû lire de livres, et pourtant s'il y avait juste un livre à garder, c'est l'évangile de Jean. Mais le plus triste dans tout ça, c'est pour que juste Monsieur Ferry, Jésus est la personne qui a la plus belle morale au monde. Ça s'arrête ici. Je nous pose la question aujourd'hui. Qui est Jésus pour toi ? Qui est Jésus pour moi ? Qui est Jésus pour nous ? Comment nous considérons Jésus ? Comme Monsieur Ferry, que Jésus est simplement la personne qui a la plus belle morale au monde ? Comme d'autres qui ne voient en Jésus un simple enseignant ? Comme certains que Jésus est simplement un prophète ? Ou bien est-ce que nous considérons Jésus comme le Messie, celui qui est passé par la souffrance, allant jusqu'à la mort pour le pardon de mes péchés, qui non seulement est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Que par sa résurrection, nous sommes libérés du péché. Que Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Que l'Esprit demeure en nous et que nous bénéficions, les amis, d'une relation intime avec Dieu, que nous pouvons l'appeler Père, que nous possédons une réelle espérance. Même si vous et moi, aujourd'hui, nous décédons, nous quittons ce monde, nous savons que nous serons auprès de Jésus. Cela manifeste aussi sa résurrection, le fait que Jésus soit ressuscité. Oui, que chacun d'entre nous puissions personnellement être au clair sur la personne de Jésus-Christ, de qui il est assurément pour nous. C'est primordial parce que la manière dont nous considérons Jésus impactera notre manière de penser, d'agir. Cela oriente tout simplement la manière dont nous vivons. Comment aujourd'hui on peut apprendre à mieux connaître Jésus ? Eh bien, en méditant ses paroles dans les évangiles, en les apprenant par cœur et surtout en les appliquant. Et je pense notamment à cette parole de Jésus que la plupart des chrétiens connaissent par cœur, mais qui bien souvent n'est pas appliquée. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Combien d'entre nous connaissons cette phrase par cœur, ce verset, mais combien d'entre nous la mettent en pratique ? Vous savez, pour apprendre à conduire, il ne suffit pas de lire, d'apprendre par cœur le code, même si ça passe par là, mais on va se mettre au volant, coordonner nos mains, nos pieds pour apprendre à passer les vitesses, freiner, accélérer, etc. Ou pour apprendre à jouer du piano. On ne va pas seulement apprendre des cours de solfège, on va commencer à pianoter, on va se positionner, on va positionner nos mains, nos doigts, on va pianoter. Même si au début, on va faire des erreurs, mais petit à petit, on avance. On progresse, même si notre progression elle n'est pas flagrante, mais au moins, on avance. Et vous voyez, c'est pareil pour la foi. Pour connaître Jésus davantage, ne nous arrêtons pas juste à la théorie, mais appliquons ce qu'il nous commande de faire dans sa parole. Et j'aimerais justement témoigner en vous donnant deux exemples qui me concernent. avant d'arriver à l'IBN, donc j'avais déjà donné ma vie au Seigneur, mais j'avais pris l'habitude que quelqu'un de ma famille, lorsqu'il arrivait à télécharger une nouvelle version d'Office, eh bien, je demandais qu'il me l'installe. Mais en étudiant la parole de Dieu, et surtout en la laissant me façonner, je dis ça parce que parfois on peut étudier la parole, mais elle ne nous transforme pas. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le Seigneur façonner notre cœur. Et le Seigneur m'a fait comprendre que tu dois acheter le logiciel pour être en règle, pour être juste devant Dieu. Et donc depuis, c'est vrai que je m'efforce de payer ma licence, de ne pas demander à certaines personnes qu'ils ont cette qualité, en tout cas qu'ils ont cette faculté à télécharger des choses. Voilà. Et le deuxième exemple, c'est lorsque j'étais en stage chez vous l'année dernière. Est-ce que vous vous souvenez du livre sur lequel nous avons fait une série de prédications à peu près à la même période? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? À la même période, on avait commencé une nouvelle série de prédications. Est-ce que vous vous rappelez le livre en début d'année? Comment ? Éphésiens, merci. Oui, c'est lorsque j'ai médité sur la lettre aux Éphésiens que j'ai pris encore plus conscience de l'importance d'avoir une relation saine entre frères et sœurs en Christ. Et pour ça, je devais éviter les propos grossiers, stupides, ou éviter les blagues qui peuvent mettre à l'aise certaines personnes, mes frères et sœurs en Christ. Les amis, un bon moyen de savoir si nous grandissons dans la connaissance de Dieu, de Christ, c'est lorsque tu progresses dans la sainteté. Pour savoir si tu grandis dans la connaissance de Dieu, de Christ, c'est lorsque tu commences à vivre de plus en plus dans la sainteté. Lorsque tu t'efforces de vivre conformément à la parole de Dieu, même si je l'avoue, c'est compliqué, c'est difficile, parfois on n'a pas envie de se conformer à ce que la parole nous dit. Tu veux te laisser modeler par les paroles de Christ, car c'est le maître en qui tu as mis ta confiance. Et justement, maintenant que nous avons une idée plus claire de qui est Jésus, voyons ce qu'implique la vie de disciple. Lisons la suite du texte, les versets 34 à 38. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que les disciples et leur dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire avec le Père et les saints anges. Oui, Jésus, dans la suite de son propos, enchaîne sur la question de l'implication. Maintenant qu'il a révélé aux disciples son identité, qu'ils ont une vision un peu plus claire de qui il est, il leur explique ce que ça coûte de le suivre. Et dans Marc, il précise que Jésus appelle aussi la foule, alors que dans Matthieu et Luc, si vous lisez, Jésus s'adresse simplement aux 12. Et certains commentateurs pensent que Marc précise que cette invitation s'adresse à tous ceux qui pourraient se joindre à Jésus. Et donc, qu'implique la vie des disciples? C'est suivre Jésus, c'est marcher à sa suite. Qu'implique la vie des disciples? Eh bien, c'est suivre Jésus, marcher à sa suite. Mais est-ce que c'est quelque chose de simple? Est-ce que c'est quelque chose de simple de suivre Jésus, de marcher à sa suite? Que dit Jésus? Tout d'abord, suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même. Eh bien déjà, c'est un choix personnel et conscient. Lorsque je choisis de suivre Christ, je suis prêt à abandonner tous mes intérêts personnels. Et au contraire, je m'attache à la personne de Christ. Oui, quand je suis Christ, je cherche ses intérêts et non les miens. Je veux que lui soit élevé et non ma propre personne. Oui, renoncer à soi-même, c'est finalement ne plus vivre pour soi-même, en recherchant à satisfaire ses propres désirs, à vivre comme on l'entend, à faire ce qu'on veut, quand on veut. En revanche, c'est vivre pour Jésus, en cherchant à faire ce qui lui plaît, en se soumettant et en obéissant à ce qu'il dit. Oui, frères et sœurs, cela implique tout cela, de le fait de renoncer à soi-même. Et il est vrai que ce n'est pas quelque chose de facile de renoncer à nous-mêmes, car on est tellement centré sur nous-mêmes, à chercher notre bien-être, notre confort. Et de plus, la société dans laquelle nous vivons ne nous aide pas. On entend ce genre de message. Crois en toi et va au bout de tes rêves. Crois en toi et va au bout de tes rêves. Voilà bien un message centré sur l'être humain qui est à l'opposé de l'évangile. L'évangile, c'est plutôt crois en Jésus et va au bout de ton engagement. L'évangile, c'est crois en Jésus et va au bout de ton engagement. Nous aussi, en Église ou dans le monde, soyons vigilants à ce que nous faisons pour Jésus et pas pour but, et pour but justement que les gens l'adorent, et non juste pour attirer le regard sur nous, que ce que nous faisons puisse attirer les regards vers Jésus, et non sur nous-mêmes. Et vous savez, renoncer à soi-même pour suivre Christ, c'est libérateur. Comment ça c'est libérateur, vous allez me dire, suivre Christ c'est libérateur. Eh bien, cela nous déculpabilise. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas avocat, médecin, ingénieur, cadre, manager, qu'on se dit qu'on a échoué notre vie. De plus, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de femme, de mari, des enfants, des petits-enfants, une maison, des biens matériels, qu'on ne peut pas avoir une vie heureuse. Lorsqu'on renonce à nous-mêmes pour nous attacher à Christ, c'est ça qui a le plus de valeur. C'est Christ notre joie. Christ nous suffit. Et je ne sais pas si vous êtes déjà senti jugé par rapport à votre niveau d'études, votre travail, votre famille, vos biens matériels, votre statut social. Mais ne culpabilisons pas, car Christ nous suffit. Et bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne devons plus faire d'efforts pour obtenir le travail dont nous avons envie, de ne plus chercher un époux, une épouse, alors que nous en avons désir, de ne plus demander à Dieu de pouvoir fonder une famille, alors que nous le voulons, de vendre notre maison, de nous débarrasser de tous nos biens que nous apprécions. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces choses ne nous définissent pas. Toutes ces choses ne nous définissent pas. Elles ne peuvent pas nous sauver du péché, de la mort, de Satan. Mais seulement Christ le peut. Christ le peut et il nous donne la vie éternelle. C'est pour cette raison que Christ nous suffit. Les amis, suivre Jésus, c'est aussi porter sa croix. Ce qui peut nous interpeller, c'est lorsque Jésus est en train de parler aux disciples de porter leur croix, lui-même, en fait, il ne l'a pas encore portée. Et donc, on peut se demander, mais qu'est-ce que les disciples, ils ont bien pu comprendre quand Jésus leur a dit ça? Jésus n'a pas encore porté sa croix, mais il dit aux disciples, portez sa croix. Et il faut savoir qu'à l'époque, la crucifixion était quelque chose de courant. Les Romains l'utilisaient pour punir les criminels. Les soldats romains obligeaient les victimes à porter eux-mêmes leur croix. Et donc, je pense que quand Jésus leur dit de porter leur croix, les disciples, ils ont quand même bien une idée de ce que cela représente, la souffrance et la mort. Jésus les avertit que pour le suivre, il y a un prix à payer. Il faut être prêt à mourir pour lui. Mais qu'est-ce que le croyant y gagne s'il est prêt à souffrir et mourir pour Christ? Qu'est-ce que le croyant y gagne? Les versets 35 et suivants nous donnent la réponse. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si nous voulons vivre pour nous-mêmes en recherchant nos propres intérêts, de vouloir nous en sortir par nos propres forces, eh bien ce qui nous arrivera, c'est que nous perdrons la vie à jamais. Au contraire, si nous sommes prêts à suivre le chemin du Maître, accepter de passer par la souffrance et la mort, mourir à cause de notre foi pour lui, eh bien, ce qui nous attend, les amis, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, les amis, en sa présence, rien ne peut offrir ce que Jésus donne. Oui, rien ne peut nous sauver de notre nature pécheresse. Il n'y a rien qui puisse nous ramener à la vie à part Jésus. Église de Saint-Maur, après avoir vu tout ça, est-ce que nous avions conscience de ce que cela implique réellement la vie des disciples? On se rend bien compte que la vie des disciples n'est pas quelque chose de facile. La souffrance et la mort font partie du parcours, les amis. N'ayons pas honte de notre maître et de son enseignement devant les incroyants, car comme le dit le verset 38, à son tour, il aura honte de nous lorsqu'il reviendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Qu'est-ce qui peut nous aider à vivre en tant que disciples de Christ, de marcher à sa suite, en nous rappelant justement qui est Christ? C'est ce qu'on a vu dans la première partie en ce qui concerne son identité. C'est ça qui va nous attacher, c'est ça qui va nous aider à vivre en tant que disciples, c'est fixer nos regards sur le Maître. Attachons-nous à lui, attachons-nous à Christ. Et comme le dit en Jean 15, « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. » Qu'est-ce qui peut nous aider à vivre en tant que disciples de Christ? En se souvenant de cette promesse justement du Maître, « Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Et pour conclure, frères et sœurs, il est toujours bon pour nous chrétiens de revenir méditer plusieurs fois sur l'identité de notre Maître. Et même si nous connaissons des choses sur lui et que nous vivons une relation avec lui, il est toujours bon de grandir et d'approfondir cette connaissance et relation. Car comme je le dis, notre connaissance de Jésus impactera notre manière de vivre. Plus nous découvrons des richesses sur Christ, plus nous grandirons dans la sainteté. En voulant nous conformer davantage, comme je l'ai dit, à sa parole, nous nous efforcerons de mettre en application ce qu'il nous commande. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Aussi, il est bon pour nous de revenir sur cette question essentielle qui est en quoi consiste la vie de disciple? Car avons-le, moi le premier, que nous avons tendance à l'oublier. Satan attire notre attention sur le monde, ce qu'elle offre, la richesse, le pouvoir, le succès. Notre ancienne condition naturelle attire nos regards sur nous-mêmes, à nous centrer sur nos besoins, notre confort, notre bien-être, notre richesse, nos biens matériels. Et donc, nous avons constamment besoin de revenir étudier sur ce que Christ attend de nous, pour justement réajuster notre manière de vivre en tant que disciple. Et pour finir, j'aimerais terminer par ces paroles de l'apôtre Paul, où nous pouvons encore nous émerveiller de la personne de notre Maître Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, pour lui et par lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Prions ensemble, frères et sœurs. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire merci. Te dire merci pour ta parole, Seigneur. Parce que c'est par elle que nous pouvons te connaître, c'est par elle que nous pouvons conformer notre vie, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler qui tu es, Seigneur. À vraiment considérer ce que tu es. Parce que comme je l'ai dit, Seigneur, te connaître davantage impactera forcément notre manière de vivre. Nous ne pouvons pas vivre dans le péché lorsque nous avons mis notre confiance dans celui qui est saint, Seigneur. Aide-nous à toujours fixer nos regards sur Christ, à pouvoir marcher à sa suite, même si c'est difficile, Seigneur. Mais nous pouvons, car ton esprit habite en nous, Seigneur. Renouvelle notre engagement, renouvelle notre confiance, renouvelle notre amour que nous avons envers toi, Seigneur. Que nous puissions toujours tenir bon malgré l'adversité, les épreuves de la vie, Seigneur. Que nous puissions nous rappeler tes promesses, que Christ nous suffit, que c'est en toi que nous avons la vie éternelle. Aide-nous toujours à fixer nos regards sur la personne de Jésus. Et Père, tout ceci, nous te le prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.